En lui, j'ai mis tout mon amour. Bien, chers frères et sœurs, au jour de son baptême, Jésus n'est plus un bébé qu'on vient adorer, mais un adulte qui sort du silence. Bien qu'une trentaine d'années séparent ces événements, le baptême de Jésus avec Noël et l'Épiphanie constitue un même mystère nous faisant entrer dans le troisième acte de la manifestation du Messie. Premièrement, un long silence. De ces 30 années silencieuses, l'Évangile nous dit très peu de choses, sinon que Jésus était un enfant de Galilée, en tout soumis à ses parents. Ce qui ne veut pas dire qu'à Nazareth, la vie de Jésus était inutile ou vide de sens. Non seulement Jésus travaillait le bois avec Joseph, non seulement il aidait Marie aux tâches les plus ordinaires de la maison, mais aussi avec Marie et Joseph, comme tout juif fervent, Jésus lisait et relisait l'Écriture, seul, en famille, à la synagogue, à chaque sabbat. Méditant les promesses et attentes du peuple auquel ils appartenaient et priant le Père, dont lui, Jésus, devait achever l'alliance pour l'accomplir. Alors, tout simplement, aujourd'hui, sur les bords du Jourdain, Jésus prononce sa première parole publique. Nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. Une parole riche de sens, c'est mon deuxième point. Géographiquement, pour ceux qui sont allés en Israël, le Jourdain est vraiment un fleuve unique au monde. Sur quelques 200 kilomètres de longueur, il descend près de 400 mètres au-dessous du niveau de la mer lorsqu'il se jette dans la mer Morte. C'est donc une véritable descente des eaux et, bien sûr, cette descente n'est pas sans évoquer la descente de celui qui vient de Galilée pour y recevoir le baptême des mains de Jean. Vous me direz, c'est bien étrange ce baptême. C'est bien étrange cette entrée publique. Étrange, car ce baptême que rapportent les quatre évangélistes est un baptême de conversion où les gens de toute la Judée viennent confesser leurs péchés et suivre un chemin de pénitence. Et voilà que, au milieu de cette foule de pécheurs, Jésus, parmi eux, s'avance et s'approche. Et Jean comprend qu'il va devoir baptiser celui qui est plus puissant que lui. Alors, Jean proteste et Jésus confirme que c'est ainsi que doit s'accomplir parfaitement ce qui est juste. D'abord, cette première parole de Jésus, adulte, nous montre qu'il a bien conscience de sa mission. Et lorsqu'il dit « faire ce qui est juste », qu'est-ce que ça signifie ? Faire ce qui est juste, ça veut dire poser un acte qui correspond exactement à la volonté de Dieu. Et pour Jésus, la volonté de Dieu, c'est justement d'accomplir toute l'histoire d'Israël et bien plus encore, intercéder, s'offrir et sauver tout homme de toute race, aussi bien païen que juif, comme le disait saint Pierre dans les Actes, la deuxième lecture. Et pour sauver cette multitude, Jésus marche avec tout le monde, comme tout le monde, inconnu du monde, portant au cœur du monde son indicible secret. Et ce qui se passe alors, bien sûr, personne ne s'en doute, excepté Jean, qui pressent le mystère et laisse faire, ou plus exactement, se laisse faire par Dieu. Un chemin si difficile pour tous et pourtant si riche et bénéfique, comme nous le montre la suite de l'événement. Sur le baptême de Jésus proprement dit, on ne sait rien de la manière dont il se déroule, mais le récit nous laisse deviner ce qui s'accomplit. La descente de Jésus dans l'eau, sa remontée, et n'oublions pas que cette eau, elle s'écoule jusqu'au plus bas de toutes les eaux de la terre. C'est donc un double mouvement de Dieu, né, crucifié, mort, enseveli, descendu aux enfers, c'est la descente, ressuscité des morts et monté aux cieux, c'est la remontée des eaux. Bien, frères et sœurs, c'est quoi cela sinon notre foi? La foi de notre baptême, celle de toute l'Église, c'est notre credo que nous allons redire dans quelques instants. En fait, tout est dit ici. Alors que se passe-t-il? Ce jour-là, les cieux se déchirent. C'est le troisième point. Eh bien, voilà confirmé l'irruption du divin dans notre monde. Une manifestation, une épiphanie, une théophanie même, rien de moins, en fait, qu'une révélation de Dieu lui-même aux hommes, et dont Jean-Baptiste est le premier témoin. N'oublions pas, ou rappelons-nous plus exactement, que pendant ce temps de l'Avent, bien souvent, nous avons implorer Dieu de déchirer les cieux et de descendre. Eh bien, voilà ce qui se produit, ce déchirement des cieux et la descente de Dieu dans le monde. Et que voit Jean? Jean voit une colombe. Alors, dans la tradition biblique, la colombe, c'est bien sûr la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et il entend la voix du Père qui témoigne que Jésus de Nazareth est son Fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour. Eh bien, oui, qu'est-ce que cela? C'est l'Église qui nous le dit depuis bien des générations, depuis le début. Ce n'est rien d'autre que la première révélation de la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. La révélation publique de ce secret que Jésus le bien-aimé portait depuis 30 années dans son cœur. Fils de Dieu de par son origine, par sa personne, et fils de Marie, femme juive, et de Joseph de la lignée de David. Ce qu'exprimait admirablement le théologien von Balthasar en ces termes, Dieu et homme dans l'unité, alliance indissolublement accomplie. C'est donc en ce jour la liturgie qui chante de l'Orient à l'Occident, depuis les grandes antiennes grégoriennes jusqu'à nos jours, et nos hymnes et préfaces actuelles aussi le redisent et le chantent tout au long de l'Eucharistie, si vous faites bien attention aux paroles. Elles chantent comme autrefois dans la liturgie tridentine ou encore actuellement, plus d'anges envoyés, plus d'étoiles qui brillent, plus de bergers ni de mages qui adorent, mais l'ouverture du ciel à travers laquelle Dieu, l'unique et trois fois saint, livre son secret. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, la Trinité est manifestée. Le quatrième point et le dernier que je voudrais encore aborder, parce que sinon il manquerait quelque chose à notre méditation, c'est les prémices d'un nouveau baptême. Alors on pourrait beaucoup méditer sur ce jour, et il serait incomplet d'en rester à contempler le mystère de la Trinité sans parler de notre baptême, bien sûr. Alors on peut se demander d'abord pourquoi Jésus, le juste, le saint, l'innocent, demande-t-il le baptême de Jean alors que ce baptême est un baptême de conversion pour les pécheurs? Eh bien, il n'y a pas d'autre réponse à donner que ce n'est pas pour lui que Jésus se fait baptiser, mais c'est bien pour nous et à cause de nous. Car considérons bien qu'en entrant dans les eaux du Jourdain, Jésus s'immerge dans la boue de notre misère. Il s'assimile aux misérables que nous sommes, et c'est au fond du trou de notre péché qu'il nous cherche, annonçant dans le même temps aussi, et vous l'avez deviné sans doute, le jour où il serait plongé dans notre souffrance et notre mort pour en ressortir avec lui vivant et vainqueur, ce que nous allons célébrer dans quelques semaines maintenant, le jour, la semaine sainte, la Passion et à Pâques. Alors voilà, oui frères, comment Jésus, c'est Yeshua, ce qui veut dire étymologiquement Dieu sauveur. Comment il est sauveur? Eh bien, en se faisant péché pour nous, selon l'expression qu'on peut trouver un peu énigmatique de saint Paul dans une de ses lettres. En se faisant péché pour nous, afin que nous soyons non plus baptisés dans l'eau, mais dans l'Esprit. Alors c'est pareil, être baptisé dans l'Esprit, ça nous dépasse un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots. Eh bien, ça veut dire tout simplement que nous serons, et nous le sommes déjà, plongés dans la vie même de Dieu. C'est l'expérience de l'Église en diverses occasions et circonstances, comme celle qu'ont faite les païens de Césarée après les paroles de Pierre, lorsqu'ils furent tout à coup remplis de l'Esprit-Saint. C'est la suite du passage que nous avons eu dans les Actes des Apôtres à la deuxième lecture. Être baptisé dans l'Esprit. Bien, pour mieux le comprendre, il suffit de lire ou d'écouter le témoignage que peuvent donner de jeunes convertis qui ont vraiment été plongés dans la vie divine et qui manifestent à ce moment-là l'expérience profonde de Dieu qu'ils ont pu faire. Oui, effectivement, c'est bien cela. Au jour de notre baptême, nous avons été baptisés dans l'Esprit-Saint au sens fort, c'est-à-dire immergés dans la grâce envahi et submergé par la vie de Dieu, exactement ce qui se passe à chaque fois qu'un nouveau-né ou un adulte reçoit le sacrement du baptême. Nous n'en sommes malheureusement peut-être pas conscients de ce qui se passe à ce moment, et pourtant c'est grandiose. Oui, le baptême, c'est cela, une plongée dans la vie trinitaire, c'est-à-dire totalement et pleinement en Dieu. Eh bien, c'est grand, c'est puissant, c'est fort, oui, et c'est cela notre foi. Alors j'en viens à la conclusion. Il est bon d'être assis avec Jésus ce matin au bord du Jourdain, à écouter avec l'oreille de notre cœur, à regarder avec les yeux de la foi et surtout, bien sûr, comme dans toute Eucharistie, à rendre grâce pour tant de merveilles. Alors oui, tout cela c'est très beau, frères et sœurs. Cependant, ce que nous avons reçu hier à Noël et aujourd'hui, ce que nous recevons comme chaque dimanche, ce n'est pas un conte de fées pour endormir les enfants. Nous sommes dans la réalité, qui est une réalité bien plus réelle encore que le monde qui nous entoure, voué à disparaître. C'est pourquoi l'appel que je vous laisse de la part du Seigneur s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit sa situation. De cette réalité, qui est aussi vérité avec un grand V, qu'est-ce que tu vas en faire aujourd'hui, demain, après-demain, les jours, les semaines, les mois qui suivent? Il est si facile d'être distrait, de sortir de l'essentiel, de s'embourber dans le superficiel et finalement de se perdre. L'homme, vous et moi, chacun ici sur cette terre, est habité par un mystère inouï. Dieu fait en nous sa demeure et chacun de nous est la demeure de Dieu. C'est pour résumer le message de Noël. Eh bien, cette vérité, cette réalité, comment ça habite ta vie? Comment ça te nourrit? Comment ça te fait vivre? Comment pourrait-on dire ça te propulse vers les autres, vers ta famille, ton entourage, tes amis, tes collègues? Et pour cela, quel temps prends-tu après chaque dimanche pour faire grandir en toi la demeure du Très-Haut? Ce n'est pas seulement en venant une heure par semaine le dimanche, ou plus ou moins une heure, selon qu'on arrive après le commencement ou qu'on reparte avant la fin. Mais c'est chaque jour et même chaque instant qu'il faut nourrir et faire grandir notre relation filiale avec le Père. Et chaque dimanche, tu reçois la même parole, le même Seigneur. Qu'en fais-tu ? Pour mesurer le sérieux de cette question, qu'on se souvienne qu'il sera demandé beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Et c'est pourquoi chacun doit se demander quels obstacles il met au plein épanouissement en lui de la vie divine, et donc au témoignage qu'il doit donner aux autres de Dieu, de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde. Témoignage dont chacun aura à rendre compte. Bien, frères et sœurs, que cette Eucharistie soit pour chacun, vous et moi, le point de départ d'une prière filiale toujours plus vraie, authentique, confiante. Qu'il n'ait pas peur de demander au Père la grâce de se livrer chaque instant entièrement à sa présence aimante. puisse ce sacrement conduire chacun à se laisser faire comme Jean-Baptiste, par celui qui habite en lui et veut animer et guider la vie de ses enfants pour leur plus grand bien. Amen.